Eh bien, nous retrouvons Corinne Barranger, notre chroniqueuse développement durable. Bonjour Corinne.
Bonjour Xavier.
Alors Corinne, on va parler des tours, les grandes tours qu'on trouve au centre-ville. Alors bien sûr, Toronto en a beaucoup et en a de plus en plus. Le respect de l'environnement pour ces projets va du choix des matériaux, bien entendu, au confort de vie pour ses habitants, en passant par le processus de construction. Alors la première question que j'ai pour toi Corinne, c'est est-ce que tu peux nous décrire un projet de construction de tours de grande hauteur?
Alors, le projet que j'ai choisi, en fait, c'est une tour qui est ouverte il y a quelques mois, qui s'appelle la tour Mini Sky City, qui est à Changsha, en Chine. C'est un projet, bien sûr, qui a été initié par le millionnaire Zhang Yu. Il faut beaucoup d'argent pour initier ce genre de projet, puisqu'il sort complètement des sentiers battus. Alors, au départ, en fait, on connaissait ce projet comme un bâtiment qui aurait 202 étages et qui serait une vraie ville.
Donc, avec je t'interromps, excuse-moi, 202 étages.
Oui.
Waouh, ok.
Ah oui, oui, non, c'est, il voulait battre la tour la plus haute, etc.
Mon Dieu.
Non, c'était une vraie ville. Il voulait construire une vraie ville pour 30 000 personnes. Cependant, le problème, il y a trois étapes en fait en Chine pour accepter un projet de construction, et les deux étapes ont bien passé, deux premières étapes, seulement la troisième étape qui était sur la méthode de construction qui a été refusée pour une raison bien simple, c'est que sa construction est faite de pièces qui sont préfabriquées que l'on assemble sur le site, ce qu'on appelle une construction modulaire en acier. Et ça, c'est très innovateur comme processus et surtout, c'est un grand avantage pour les promoteurs, c'est que au lieu de passer 7 mois à attendre que le béton
sèche,
etc.,
ouais.
Eh bien, en ce qui concerne donc le projet final qui a été en fait une tour de 57 étages, mais qui fait quand même 204 mètres, ce qui n'est pas négligeable, eh bien, il a été construit en 19 jours.
Mon
ce qui
Dieu,
est
mon
assez Dieu. Incroyable quand même. Hein.
Ouais, ouais.
Et donc, le fait d'utiliser ces pièces préfabriquées, bien sûr, on utilise un acier qui va être recyclé, on utilise un certain nombre de matériaux qui sont recyclés, mais on a épargné comme ça le voyage de 15 000 camions. C'est énorme. Et aussi tout ce qui est poussière sur le site, tout ce qui est, travaux parasites au site qui vont polluer, qui vont donc rien qu'en termes de construction, déjà on peut dire que le projet est quand même beaucoup plus écologique.
Oui. Alors, on en avait parlé lorsqu'on avait parlé des bâtiments LEED, il me semble,
Corinne. Oui, c'est ça.
Ce n'est pas seulement le bâtiment écologique quand il est fini, mais c'est aussi tout le processus de construction.
Exactement, exactement. On part du point A jusqu'à la phase finale. Et il faut repenser toutes les étapes de construction. Et donc, alors, il a déjà construit des bâtiments. Bien sûr, ce n'est pas son premier projet. Hein. Mais donc... sa tour a dû se limiter à 57 étages. Donc ce bâtiment est innovant aussi pour d'autres aspects. Donc l'aspect filtration de l'air qui est très mis en avant en Chine puisque l'air est relativement pollué dans les grandes villes en Chine. Et donc là, il y a un système de filtration qui filtre jusqu'à 99,9% des particules. Donc l'air qui est respiré donc dans ces bâtiments est parfaitement pur, quoi, parfaitement parfait. Et on dit qu'il est 100 fois supérieur à l'air qui est à l'extérieur. Alors bien sûr, ce bâtiment se caractérise par ce qu'on appelle un quadruple vitrage. On n'est plus au simple ou double vitrage, on est au quadruple vitrage, des isolations qui font 20 cm. Ces bâtiments, tous les bâtiments que l'on qualifie d'écologiques ont cette particularité de circulation d'air à l'intérieur du bâtiment. Ce qui fait que ce bâtiment, en fait, donc la circulation d'air, elle se fait particulièrement par le centre du bâtiment. On a construit des grands atriums qui font une dizaine de mètres. Et l'autre chose, c'est qu'on a construit, alors ça c'est assez original, une espèce de pente en fait qui circule tout au centre du bâtiment, une piste qui fait 3,6 km que vous pouvez monter en courant ou en vélo, ou dans la vidéo, ils montrent même en voiture, en petite voiture électrique. Donc ça donne un espace de vie intérieur très intéressant. Alors bien sûr, pour un promoteur classique, ce ne sont pas des projets très intéressants dans le sens où on utilise beaucoup de place pour l'isolation, pour la circulation d'air, donc moins de rentabilité sur le bâtiment. Mais c'est quand même une construction vraiment intéressante et aussi en termes de d'épargne pour le gaz à effet de serre, c'est comme si on plantait l'équivalent de 660 000 arbres.
Mon Dieu, ok.
C'est quand même assez incroyable.
Alors donc ce bâtiment qui devait faire presque 200 étages, finalement c'est limité à 57.
57, mais il envisage toujours d'en faire un beaucoup plus haut. L'autre élément aussi, on est dans une zone qui est peut-être sismique. C'est un bâtiment qui peut résister à des tremblements de terre de magnitude 9. Donc, ce qui est relativement important puisque c'est pratiquement l'échelle maximum, le nombre maximum sur l'échelle.
Alors, tu parlais de ce bâtiment en Chine. Justement, la question suivante que j'ai pour toi, c'est où se trouvent ces bâtiments des grandes tours écologiques comme ça?
Alors, les bâtiments, en fait, on les trouve un peu partout. Je dirais particulièrement en Amérique du Nord, en Europe, en Chine, au Japon, en Australie. On en trouve, bon, dans tous les pays où on va construire. On en trouve un peu moins en Amérique du Sud ou en Afrique. Les constructions sont un peu moins hautes. Je dirais que les constructions de grande hauteur vont surtout, alors comme je disais précédemment, au Japon, sur des zones où il y a une forte densité de population et une surface habitable qui est quand même limitée. Et puis bon, ben dans les grandes villes qui s'étendent et qui ont malheureusement manque de place et qui, bon, comme des villes comme Toronto, on peut imaginer aussi Toronto, ont besoin de s'étaler en hauteur, en fait.
C'est ça. Donc la densité de population force à aller vers la hauteur. On ne peut plus s'étendre comme on faisait dans les années 70.
Comme on le sait depuis maintenant quelques années, y a plus de monde dans les villes que dans les campagnes. Donc, il faut trouver à loger toutes ces personnes.
Maintenant, est-ce que tu nous as donné cet exemple en Chine? Est-ce qu'il y a d'autres exemples que tu pourrais nous donner de ces bâtiments, de ces grandes tours en hauteur écologique?
Alors, je vais commencer par une qui est plus ancienne, qui fait 55 étages. C'est la Bank of America Tower, qui est à New York. Qui a été terminée en 2008. Alors elle a toutes les certifications, en particulier la certification LEED Platinum. L'élément du building, bien sûr, c'est que on a utilisé 87% à l'époque de matériaux qui venaient de matériaux recyclés. Et ensuite, une emphase a été mise aussi sur la collecte de l'eau, sur l'utilisation, la réutilisation de l'eau dans le bâtiment pour les toilettes, l'eau non que l'on utilise qui n'a pas besoin d'être potable en fait. L'autre tour que je peux mentionner, qui est la One Blight à Sydney, qui est en Australie. Celle-ci est un peu moins haute, elle fait 30 étages, mais quand même 139 mètres. Et elle a une forme un peu elliptique. La caractéristique de cette tour, c'est que donc l'Australie, c'est un pays chaud, sud de l'Australie. Et donc il y a tout un système de store. Il y a vraiment une utilisation maximale du soleil, mais aussi toujours avec ce phénomène de circulation d'air. Alors ils ont utilisé d'ailleurs la structure avec l'atrium à l'intérieur. Il y a un atrium qui fait une trentaine de mètres en fait à l'intérieur, qui permet la circulation de l'air. Sur certaines autres tours, et ça c'est le cas de la Shanghai Tower qui va être ouverte en novembre il me semble, qui fait elle 632 mètres et 128 étages. Là, la circulation d'air se fait au niveau des façades, c'est-à-dire qu'on a construit deux façades. Et entre ces deux façades, en fait, qui sont des espaces de vie, on va circuler l'air dans le bâtiment. Donc ça, c'est une autre façon. L'autre chose, c'est qu'elles ont des formes en spirale elliptique, hélicoïdale, spirale, qui leur donne une résistance au vent qui est maximum. Très intéressant aussi dans ces pays qui peuvent être soumis aux tremblements de terre. Donc ça, c'est relativement intéressant. Alors bien sûr, toujours mise en place de matériaux recyclables. Par contre, ces trois tours ont été élaborées selon des techniques traditionnelles qui font que il a fallu quand même beaucoup de mois pour les construire. Celle dont j'ai parlé au début, vraiment, c'est sur la technique de construction qui est vraiment innovante.
Eh bien, Corinne, merci. On en sait un petit peu plus maintenant sur ces tours qui ne cessent de pousser, non seulement à Toronto, mais dans toutes les grandes villes du monde. Et ces tours qui sont devenues en fait écologiques. Et puis, je suis toujours un petit peu abasourdi par la hauteur des projets que tu mentionnais. C'est impressionnant, là, les défis technologiques que ça doit présenter.
Oui, c'est impressionnant.
On te retrouve pour la prochaine chronique développement durable, Corinne, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Merci. Et puis nous continuons bien entendu sur les ondes de Choc FM 105.